Bonjour à toutes et à tous. Dernière semaine, donc dernier jour même, avant de laisser place à la grille d'été. Dès lundi prochain, vous entendrez chaque jour à 14h des entretiens hors champ de Laura Adler, des entretiens inédits. Et puis vous pourrez réécouter une sélection de documentaires Les Pieds sur Terre proposés par Sonia Kronlund. Mais nous sommes encore ensemble jusqu'à demain et notre chantier thématique de la semaine, c'est l'été. Aujourd'hui, lumière et amour de vacances.
Mais tais-toi! Ah, dégage mon animal! Putain!
Monsieur, ça va sonner!
Pardon?
Ça va sonner?
Range ton portable, Iman, s'il te plaît! Tu vas rester à la fin du cours, Iman?
Bah non! Quand ça sonne, c'est la fin de l'année, je pars au lycée!
Faudra être un peu plus mature quand vous arriverez au lycée! Vous allez voir si vous allez rigoler quand vous serez à l'internat!
5, 4, 3, 2, 1!
Au début, il y a la lumière, puis le cadre, puis les acteurs, puis l'histoire. C'est la profession de foi du chef opérateur Wilmo Siegmunds, cité par Stéphane Delorme dans les cahiers du cinéma de l'été 2014. Ce milieu dans lequel nous baignons sans nous en apercevoir jusqu'à ce qu'un événement lumineux se donne à voir et fasse scintiller le monde. La lumière avant le cadre, l'atmosphère de la scène avant le découpage du réel, la totalité avant le fragment, la lumière avant les acteurs, car c'est la lumière qui donnera l'éclat de la peau et l'érotisme éventuel de la scène, qui découpera les visages dans l'ombre et désignera un œil, une bouche, une chevelure. La lumière avant l'histoire, car l'action, les péripéties, les situations baignent dans ce bain originel qui donne la singularité de la teinte d'ensemble et comme la matière du film. De ce milieu lumineux peuvent alors naître des événements. Il est 14h, passé de 2 minutes, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Et en fin d'émission, cette semaine, nous écouterons des auditeurs, des visiteurs, des passants qui, pendant le week-end Imagine, coproduit par le Centre Pompidou et France Culture, début juin, nous avaient rejoints sur la grande marelle radio de la Piazza pour enregistrer des récits de moments importants. Aujourd'hui, on écoute l'apparition d'un cheval sauvage dans un paysage orageux et estival d'Arménie, image vers 14h50. C'est donc le quatrième jour de ce chantier des nouvelles vagues consacré à l'été et aujourd'hui, lumière. Je citais à l'instant ces mots d'un chef opérateur qui pense la lumière comme un milieu dans lequel on baigne. Eh bien, les étés d'adolescence seraient ces plages longues de temps pour passer d'un milieu à l'autre, opérer des retours, hésiter, puis franchir certaines eaux troubles. Autant de métaphores dans lesquelles plongent vos deux films, Héloïse P. Loquet et Léa Misius. Vos courts-métrages respectifs L'âge des sirènes et L'île jaune ont été montrés récemment lors du festival Côté Court à Pantin. Ils mettent en scène des étés, des îles, des anguilles, des sexualités naissantes, des transmissions fines, des désespoirs, des oiseaux menaçants, des émancipations. Et ils subliment tous les deux la lumière de juillet-août. Vous allez nous dire d'ailleurs si ça a vraiment été tourné à l'époque. Bonjour à toutes les deux et bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Avant de parler cinéma, peut-être Héloïse Péloquet, qu'appelle l'été pour vous, comme ça, de but en blanc ?
Qu'appelle l'été ? Eh bien, effectivement, la lumière, les vacances, des grands... Ça m'appelle souvent des changements, du renouveau, une remise des compteurs à zéro. Qu'est-ce que ça m'appelle d'autre l'été ? Un genre de latence, de temps mort avant de redémarrer.
Plus que janvier finalement, ce renouveau.
Oui, toujours plus que janvier, oui.
Léa Misius ?
Oui, moi ça me rappelle plutôt des souvenirs et des lieux, et donc des décors en fait, souvent. Donc ça me rappelle mon enfance en fait, surtout au bord de l'Atlantique. Donc l'été c'était les blocos sur la plage. Nous qui nous baignons nus, la salade de riz avec le sable dedans. C'est des images comme ça et des sensations, oui, de lumière qui... Enfin, avec le soleil qui se couche tard, évidemment. Et ensuite, c'était aussi le passage de l'adolescence où j'ai passé l'été à La Réunion, à l'île de La Réunion. Et donc là, c'est un été complètement différent. C'est un été sur l'année, d'ailleurs. Et du coup, une adolescence dans l'eau, quoi.
Et ressemblait à quoi l'été à l'île de La Réunion ?
En fait, il y a soi-disant un hiver à La Réunion, mais où on habitait, il y avait très peu quand même de... Enfin, c'est un hiver à 23 degrés, avec du soleil tout le temps, et juste le soleil qui se couche tôt, par contre. Et après, c'est des grandes chaleurs, de beaucoup d'humidité, et du surf, de la plage.
Quelle géographie pour vous, Héloïse, l'été ?
Moi, plutôt littoral atlantique. Plutôt côte atlantique. Parfois moins de soleil, des étés un peu plus humides parfois. Enfin, ça dépend là-bas, ça dépend des coefficients de marée pas mal, mais c'était plus des îles et des plages.
D'un côté ou de l'autre de la table, et d'ailleurs dans vos films, beaucoup d'eau.
Beaucoup d'eau.
Exactement.
Beaucoup d'eau. Tout à fait.
Enfin, j'ai toujours tourné avec des météos imprévisibles. S'il pleut, eh bien, on montre la pluie. S'il fait beau, on montre le soleil. Disons que là, j'ai peut-être eu un peu trop de soleil à mon goût. Mais enfin, ça ne m'a pas gêné. Et j'ai tout de même une très belle scène de Bruine. C'est la scène avec Solène sur le rond-point au pied de la statue. On aperçoit la Bruine qui tombe dans le fond. Et d'ailleurs, pour donner un détail anecdotique, on avait été obligé, il y a un moment le personnage s'assoit sur le banc, eh bien, on avait été obligé de l'essuyer parce qu'il était absolument mouillé. Il faut tirer avantage, c'est le propre du cinéma, enfin, il faut être tout le temps sur le qui-vive. Par exemple, la scène que nous avons tournée sur la plage, la rencontre Gaspard et Margot, eh bien, elle a été décidée in extremis. C'est-à-dire, c'était un dimanche, on pensait qu'il ne ferait pas tellement beau et qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Alors, c'était un des premiers dimanches, mais du mois de juillet. Bon. Mais il s'est trouvé qu'à cause du beau temps, une grande foule est venue. Alors, à ce moment-là, je suis allé, nous habitions dans une villa qui était à 5 minutes, un pas de la plage. Je suis allé jeter un coup d'œil sur la plage, et je dis, alors que tout le monde était encore à table, il faut tourner aujourd'hui parce qu'on a une occasion extraordinaire. Et à ce moment, eh bien, en 5 minutes, ça a été fait. Alors que lorsqu'on a des équipes plus lourdes, lorsqu'on a un plan de travail, et lorsqu'on a tout le poids de la régie, etc., c'est souvent beaucoup plus difficile.
La voix d'Éric Rohmer dans une archive de 1996, il est au micro de Michel Simon sur France Culture et il évoque Contes d'été. Il parle de la météo imprévisible avec laquelle il a dû faire et de la possibilité de faire avec cet imprévu de la météo parce que son équipe le permettait. Comment ça s'est passé pour vous l'une et l'autre et quelle était votre réactivité possible à la météo, Léa Misius ?
Nous en fait on n'a pas tourné en été, on a tourné au printemps.
Déjà.
Donc c'était pour avoir les oiseaux. Parce que les oiseaux étaient vraiment plus nombreux à cette période-là. Et ensuite, donc, on a eu vraiment une météo très capricieuse, mais c'est ce qu'on voulait aussi parce qu'on recherchait justement des humeurs comme les humeurs de la petite Héna. C'était les humeurs de la météo. Donc le vent. Par exemple, il y a une scène de nuit où en fait les parents sont dehors en train de manger le soir, quoi, de faire une petite soirée. Et Héna vient et là, elle a vraiment du vent dans les cheveux qui lui soulève complètement les cheveux comme si elle était dans une tempête. Et c'est du vent réel en fait. Et on n'aurait jamais eu cette scène si il n'avait pas fait ce temps-là, parce qu'en fait, sans vent, la scène aurait eu moins de cinéma.
Ça signifie que vous avez écrit aussi, ou écrite ces humeurs météorologiques, quand vous dites « on avait », c'est-à-dire que vous discutiez avec Paul Guillaume de ses envies d'humeur, de temps ?
En fait, on essaie toujours d'être souple sur le plan de travail, justement, pour pouvoir s'adapter s'il y a du soleil, s'il y a de la pluie, pour pouvoir mettre les scènes qu'on a envie de tourner en fonction. Après, il y a toujours du hasard et là, on pensait vraiment ne pas pouvoir tourner tellement il y avait du vent. Et en fait, c'est ça qui a donné la scène parce que je pense qu'elle aurait été moins intéressante sans le vent.
Qu'est-ce que vous utilisiez comme mot au départ pour en discuter justement de ces atmosphères lumineuses que vous souhaitiez pour votre film L'île jaune ?
Alors, on parlait beaucoup de soleil quand même parce que c'était le but de faire un film d'aventure et d'été, même si on dit que l'action se passe en été. Et ensuite, on avait choisi aussi la pellicule pour avoir ces ambiances d'extérieur jour très ensoleillées sans que ce soit une image cramée. Et la pellicule le permet beaucoup plus que le numérique. Et ensuite, on voulait vraiment que les peaux soient présentes, quoi. Et ce qu'il y a vraiment de bien avec la pellicule, c'est que c'est très charnel. Et la première fois qu'on a vu les essais et tout ça, on se dit « Ah oui, en fait, on a l'impression que les acteurs sont là, dans la lumière, et la lumière révèle vraiment les acteurs comme elle révèle la pellicule. »
Est-ce que vous avez beaucoup retravaillé à l'étalonnage ? Parce que cette île jaune dont on reparlera tout à l'heure, qui est le territoire un peu particulier d'un jeune garçon que rencontre la petite fille, elle est aussi présente, cette jaunisse, dans les lumières que vous avez choisies. C'est a posteriori que ça a été traité ?
En fait, à l'étalonnage, on a vraiment choisi une teinte parce que en fait, souvent, on oscille entre magenta et vert. Et nous, avec l'étalonneur, donc Raymond Torrentin, on cherchait plus une teinte dans le doré. Et donc, effectivement, c'est un travail à l'étalonnage. Après, ça dépend aussi de la lumière qu'il y a sur le décor. Donc, on ne peut pas non plus tout changer. Mais cette petite teinte dorée, oui, on l'a trouvée à l'étalonnage.
Héloïse Pelloquet, sur votre possible réactivité à la météo, à la lumière sur le moment de tournage, vous avez tourné à quel moment ?
Nous, on a tourné au mois d'août. On a tourné fin août pour éviter le gros de la saison touristique, mais on voulait tourner en été quand même.
Pour la lumière ?
Oui, pour la lumière d'été. Pour la lumière d'été et pour la météo. Alors bon, on espérait tout de même, on espérait en fait des imprévus entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait écrit, avec Rémi Brachet qui a écrit le scénario avec moi, une scène de, par exemple, de tempête dans le film. Donc on a pareil, conçu un plan de travail suffisamment souple pour se permettre de tout abandonner si un jour il y avait une tempête pour pouvoir tourner la séquence en question. On a eu de la chance. Sur les 15 jours de tournage, d'en avoir une. Du coup, ça a reconfiguré le tournage. Mais tout le monde était prêt à s'adapter. Et à l'inverse, il y avait une autre séquence qui était prévue en plein soleil. C'est une séquence où le personnage principal, Mathis, aborde une fille qu'il observe depuis un moment, et c'était prévu qu'il l'aborde en plein milieu du port, qui est un des...
Quel lapsus.
Oui, qui est un des... Le port, qui est un des décors principaux du film, et donc en plein soleil. Et finalement, il s'est trouvé que le jour où on devait le tourner, et là on pouvait moyennement s'adapter, il pleuvait, mais d'une petite pluie d'été, plus bruine. Et du coup, ça a fait qu'on a dû, en fait, nous, l'équipe, se confiner, et donc confiner la séquence. Donc on l'a adapté dans une toute petite cabine, qui est en fait la cabine d'une grue de levage qui est devant la criée. Et ce qui fait qu'en fait, pour moi, la séquence s'en est trouvée améliorée parce que, au lieu d'être comme ça en plein air, à la vue de tout le monde, Mathis, pour parler à cette fille, doit s'introduire dans la cabine dans laquelle elle est en train de fumer une cigarette, qui n'est que semi-ouverte, et donc lui demander l'autorisation. Et donc, ça ne se fait qu'après une amorce de discussion. Et tout ça, en fait, a rendu la scène plus intime, et comme c'était une scène qui devait beaucoup tourner, diffuser une impression de désir entre eux.
C'est ça, voilà. cette cabine qui a été presque imposée par la brune et
Absolument.
Par la météo. On entendait Romère disant tout à l'heure, on a eu une scène sublime de brune. Là, c'est vrai que la cabine, elle oblige à quelque chose de conséquent du point de vue du rapprochement des corps, ce que devait normalement suggérer
Absolument.
Cette scène très forte.
Absolument, oui.
On entendait Romère parlant de contes d'été. Vous dites toutes les deux que vous avez voulu faire un film d'été. Ça veut dire que vous avez été attentive dans la filmographie des auteurs, des réalisateurs qui vous intéressent à ces films d'été ? Est-ce que vous en avez eu en tête, Léa Misius ?
En fait, on n'a pas vraiment fonctionné par référence. C'était plutôt, on voulait vraiment faire un film d'aventure. C'était plus des références de genre. Après, évidemment, il y a toujours des références inconscientes. Et il se trouve qu'au montage, on a quand même révélé la référence, pas vraiment inconsciente, mais bon, qui était À nos amours de Maurice Pialat. Mais on s'en était vraiment pas aperçu quand on a tourné, qu'elle avait des petites airs, Ena, la petite comédienne de Sandrine Bonnaire. Le t-shirt rose, on n'a pas fait exprès. Et puis en fait, au montage, c'est le monteur qui a mis la musique de Maurice Pialat, fin d'À nos amours.
Pour l'assumer.
Pour l'assumer, voilà.
Et pour en rire éventuellement.
Et pour en sourire. Oui.
Et Louise Pelloquet, des fantômes de films d'été au moment du tournage, de l'écriture, du montage ?
Au moment du tournage, pas vraiment, c'est pareil. En fait, je pensais aussi qu'on est pétri de références, mais c'est vrai que de la même manière, on fonctionne pas vraiment comme ça. Quand même, si avec Augustin Barbaroux, le chef opérateur, quand il est question de préparer le tournage, on se montre des références. Nous, on a parlé plusieurs fois du film Les Merveilles, qui est un film très très solaire.
D'Alice Rochenberg qui d'ailleurs dont les petites filles dans cette maison, hein, ça se passe dans un été, c'est aussi sur la question du passage d'un âge à un autre, ces petites filles vont dans la grange observer la manière dont le soleil se dépose
absolument,
au sol.
Ouais, absolument, c'est une scène magnifique. Et voilà, on a parlé de films comme ça, mais d'une manière plus pour s'imprégner d'atmosphère. C'était aussi beaucoup pour la façon dont les personnages sont filmés dans ce film, pour le point de vue, pour la place de la caméra, la discrétion de la caméra, je dirais aussi d'une certaine manière. Donc on parle de références comme ça. Après, des films d'été, oui. Non, je pense aux merveilles surtout.
Oh, c'est sexy cette petite tache.
C'est pas du tout sexy, ok.
Ouais, ça fait mal, j'essaie de redémarrer le moteur.
Ah ouais, d'accord.
Faudrait vraiment qu'on en rachète un là. Si on scotise, ça vous va ?
Ah, c'est mort, je paye pas, moi.
Quoi, tu payes pas?
Je paye pas pour cette merde.
Cette merde, mais quoi, ce bateau il est génial.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Bah oui, bah alors pourquoi on prend pas un beau moteur? Comme ça on pourrait partir en mer et tout, aller pêcher, ce serait génial.
Non,
c'est
vrai.
Faire des soirées en mer.
Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est utile d'aller en mer, retaper le bateau? On peut très bien squatter ici, on peut très bien aller dans un bar.
Mais va dans ton bar, t'auras l'air bête. Et c'est
mais alors, ce sera
seul, nous on passe.
Ok, j'irai, très bien, j'irai. Aucun souci, c'est bon.
Thomas, on va acheter un moteur et on se taille en mer.
Et moi?
Quoi?
Bah, je peux le faire ou pas?
Bah oui. Allez, Iman.
Mais tu fais quoi là?
Ah bah vas-y, viens, tape.
C'est mort, hein.
Allez, c'est non, bon, calme-toi.
Comme toi, je suis pas mon père, hein, ça va.
Bah, allez, on va acheter un moteur. Allez. C'est cool.
On a entendu tout à l'heure, l'école est finie, on est dans votre film L'âge des sirènes, ils sont dans un bateau, ils discutent d'acheter ou non un moteur pour pouvoir partir, cette idée de partir et de prendre la mer est présente dans vos deux films, mais on choisit cette scène-là parce qu'il semble que justement la lumière se dépose sur le visage de ces jeunes comédiens d'une manière qu'on a du mal à imaginer hasardeuse. Héloïse Péloquet, qu'en est-il ?
Absolument, ça fait partie des scènes en fait, donc avec Augustin, on s'était dit, on a surtout parlé, pour parler de lumière, on a parlé de couleur et surtout on a parlé d'ambiance. C'est-à-dire que dans le film, donc, qui se passe sur un été, Mathis et ses amis passent au lycée. Et en fait, ils sont au collège, ils ont tous grandi ensemble sur cette île qui est l'île de Noirmoutier. Et il n'y a pas de lycée sur l'île, donc il est question d'aller à la rentrée, à l'internat. Et le projet, c'est évidemment d'y aller tous ensemble. Et Mathis, pendant l'été... se découvre d'autres passions, d'autres amours aussi, et finalement va décider. Enfin bon, et se pose la question de son départ à lui. Et donc c'est un personnage qui est tiraillé. Donc on s'était dit avec Augustin que il fallait que ça se sente dans la lumière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux atmosphères. Il y a sa vie au port et sa vie avec ses amis. Son été est divisé en deux, et on s'était dit qu'au niveau de l'ambiance lumineuse, les séquences avec les amis devaient être très solaires. Alors que l'ambiance du port, un peu plus froide, un peu plus bleue, on parlait beaucoup en termes de couleurs en fait.
Et dans cette scène-là, par exemple, vous avez utilisé des miroirs ?
Voilà, dans cette scène-là, l'idée c'était qu'il y ait quelque chose d'une lumière palpable, concrète, qui crée de la matière. Et donc oui, il y a un effet de miroir qui déréalise aussi un petit peu. C'était toujours la question de traiter aussi, de mettre en fiction par la lumière, parce que le principe de jeu est assez naturaliste. Et l'idée, c'était de décaler toujours le film vers plus de fiction, vers plus de romanesque, mais par des détails, par justement un reflet lumineux qui paraît tout d'un coup un peu décalé et qui place aussi le récit plus du côté de la fiction ou de la petite fable. Voilà, c'était...
Viens. Viens. Je me ravage la peau.
Attention.
T'es en vacances ici?
Oui, mais de l'autre côté de l'étang.
Dimanche, tu vas lever des filets.
Quoi?
Dimanche, tu fais quelque chose?
Non.
Ça te dit de venir?
Oui.
Léa Misius, c'est quasiment... Moi, c'est Loïc. Quasiment la scène d'ouverture de votre film, l'île jaune, avec la rencontre entre la toute petite fille et puis ce jeune pêcheur et l'anguille. Il se trouve que là aussi, c'est un animal qui est commun à vos deux films. Pourquoi vous décidez d'ouvrir avec ce jeune homme qui fait cadeau d'une jeune anguille à la petite fille ?
Alors, en fait, l'idée originale, c'est assez documentaire, dans le sens où c'est Paul, qui donc le co-réalisateur de l'île jaune, qui habitait dans une région en fait, où ils font ça, ils pèlent vraiment des anguilles avec une bétonnière. Et donc quand il m'avait raconté ça, que même quand il était enfant, il le faisait encore, maintenant c'est interdit, il mettait toutes les anguilles dans la bétonnière avec du sable, il faisait tourner, et ensuite c'était plein de sang, et l'anguille était pelée, vivante. Donc cette image m'a évidemment plu, donc je voulais vraiment commencer le film par ça, parce que bon, peut-être que c'est évidemment le côté sexuel et le côté sensuel aussi du poisson, de l'anguille qui plus est. Cette étrangeté de l'appareil de chantier avec le poisson, l'animal, et cette petite fille qui au début est très apprêtée, un petit peu...
Attendu par ses parents d'ailleurs.
Attendu par ses parents, un peu, voilà, une petite poupée quoi, au milieu de ça. Donc c'était ces images fortes.
Une image forte et très métaphorique que vous prenez vous aussi, Héloïse Péloquet, mais c'est le jeune homme qui, en effet, pour son job d'été, travaille avec un pêcheur, pêche des anguilles et dans des scènes de nuit, les observe et on sent qu'il est extrêmement troublé par cette vision-là. Il a quoi comme statut cet animal dans votre scénario ?
Il a... En fait, déjà, je voulais qu'il y ait quelque chose de très impressionnant pour lui. C'est-à-dire que bon, on avait, alors chez nous, c'est pas des anguilles, c'est des congres. Enfin, c'est quasiment.
C'est plus gros.
C'est plus gros. Il fallait que ce soit impressionnant. Je voulais qu'il pêche des poissons, qu'il y ait quelque chose qui crée une émotion forte chez lui. Et puis, dans le film, il y a le symbole de la sirène qui revient plusieurs fois. Et pour moi, c'est ça. Ces poissons qui sont là, qui effectivement, à un moment, il y a un plan où ils s'entremêlent. C'est très bleu, c'est pareil de tourner de manière pas tout à fait réaliste et oui c'est pour moi ça représente ces cheminements, ces préoccupations du moment, ces cheminements, ces questionnements pendant l'été et tout ça est symbolisé plusieurs fois dans le film, oui, par le symbole du poisson, de la sirène, de ce qui attire vers la profondeur.
Et du sang, et il a les mains pleines de sang, et c'est aussi c'est vraiment la première fois que ça l'arrête, hein, quand il est au port, comme ça, dans cet endroit où on trie les poissons, il se trouve avec du sang de poisson sur les mains, et on sent qu'il y a quelque chose de physique qui se trouve profondément.
Absolument, oui. Il y a un contact physique, il y a une morsure, il y a une blessure, oui. C'est un premier effet de ces sirènes sur lui, on va dire.
Sacré deal.
Ça capte pas?
C'est pas un grésillement, hein, c'est presque un petit chant, tu vois. Ça s'approche. Hein.
C'est bizarre. Mais c'est quoi?
Peut-être des sirènes.
Des sirènes.
Elles chantent, elles sont belles, les marins vont sur les traves, ils sautent à l'eau, puis disparaissent avec elles.
Non, mais non, ça me fait marcher, là.
Ouais. Je suis comme toi, hein.
Clémenceau, t'es à l'écoute ?
Ah bon sang ! Oui, Clémenceau, j'écoute, là.
Ouais, Elodie, pour Jean-Pierre, il y a un connard qui est en rade, là, sur la roche des Pères. Il y a moyen que vous veniez ?
C'est Elodie, tu la connais, toi.
Clémenceau, vous foutez quoi, les gars, là ?
Elodie ?
Ouais, il y a un bateau en rade là sur la roche des Pères, il y a moyen que vous sortiez.
On en a rien à foutre.
Comment ça, vous en avez rien à foutre? Attends, vous êtes le bateau de sauvetage ou pas là? Enfin, je comprends
pas. Non, on n'est pas dedans là. Enfin, si, mais non, tu vois, enfin, tu.
Hein?
Les gens, ils avaient qu'à pas sortir. Ils ont vu la météo. Ils sont cons eux aussi.
Putain, vous êtes des bouffons. Ouais, mais c'est une blague là.
Mais non, c'est pas une blague. Hein, en plus, j'ai vu des mouettes jaunes. Alors, je peux te dire que moi, je sors pas. Hein.
Jean-Pierre, tu me casses les couilles, moi je suis toute seule là.
On finit la blague, le plot. Ah, Elodie, c'est Jean-Pierre, là, je t'écoute.
Ouais, mais c'était qui ce mec?
Ah, je sais pas, mais y a personne avec moi. Hein.
Ouais, bon, ok, mais vous pouvez venir du coup à la roche des Pères?
Bah, y'a pas de problème, là, on va y aller, là. Par contre, tu vas pas venir avec nous.
Ah bon, pourquoi?
Bah, il fait trop mauvais, là. Ah, mais... la tempête qui fait l'eau, je préfère pas.
Je peux pas me mettre dans un coin du bateau?
Non, je vois bien.
Héloïse Péloquet, c'est un nouvel extrait de votre film L'âge des sirènes. Alors, on disait à l'instant que ces congres et les anguilles présents dans l'île jaune étaient en effet des animaux qui amènent vers la sexualité ou vers le trouble. Ici, il parle des sirènes, cette transmission avec le vieux pêcheur. Et puis, c'est la voix d'Élodie qui débarque dans la radio du bateau, la sirène convoitée par le personnage masculin. Mais il y a aussi quand même ce qui se passe entre cet homme-là, beaucoup plus âgé, et puis ce tout jeune homme avec qui il va bosser pendant l'été. Et l'idée qu'il est encore trop jeune, trop expérimenté pour partir dans la tempête. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu écrire justement dans cette relation entre ces deux jeunes et plus vieil hommes?
Oui, alors effectivement, il y a quelque chose qui d'abord, on ramène l'idée de la sirène aussi sous forme d'un genre de bizutage. En fait, c'est un moment dans le film où Matisse n'a pas vraiment encore fait ses preuves en mer et où il s'apprivoise petit à petit. Il apprivoise donc ce pêcheur qui s'appelle Jean-Pierre. Et oui, l'idée, c'est que la scène commence comme un bizutage, qu'il y a un genre de complicité qui commence à se créer par le rire, par la plaisanterie, qui plus tard dans le film évolue vers plutôt une forme d'intimité. mais qu'il y a encore du chemin à faire. L'idée, c'était qu'à la fin, oui, le temps du rire est fini et qu'il y a du chemin à faire et qu'il y a aussi le moment de revenir au sérieux parce que Jean-Pierre porte aussi ça, la question du travail et de la prise de conscience de la valeur du travail et tout ça est importante dans le film. Et le personnage de Jean-Pierre ramène souvent à ça et véhicule ça. Il ramène aussi à quelque chose d'entre guillemets moins mythologique de la mer, c'est-à-dire quelque chose de... Moi, je suis attachée aussi à ce que le romanesque naisse dans un terreau assez, enfin, pour pas dire concret, pour pas dire pragmatique, en tout cas, un ancrage réel. Et du coup, il ramène à quelque chose de sérieux, de dangereux aussi, parce que il lui dit, ils sont dans le bateau du sauvetage, il faut partir sauver, pas vraiment sauver, mais enfin là, c'est plutôt une panne dans l'idée, mais et bon. Et il est là, lui, c'est celui aussi qui brave le danger que peut représenter la mer.
Et Matisse, voilà, c'est pas une histoire de petit garçon, justement, cette mer qui est agitée, qui est dangereuse, qui est mortelle. Et d'ailleurs, il semble que dans la manière dont il est ramené à son tout de même jeune âge, c'est presque, ça peut entrer aussi en correspondance avec la manière dont on rejette les trop petits poissons à l'eau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore suffisamment épais pour qu'on vous embarque avec nous, si bien que cet été-là n'est pas... C'est encore l'été de l'enfance, quoi, pour Matisse.
Oui, oui, il est vraiment entre deux. Et c'est pour ça que la question des sirènes me paraissait encore possible. Et pour moi, un personnage avec 2 ans peut-être de plus, c'était plus possible. Parce que ce bizutage, bon, Matisse, il répond, tu me fais marcher et tout, mais...
Il y va quand même.
Ça infuse quand même, finalement, après, ça influence parce qu'il y a encore une part d'enfance, c'est parce que même s'il marche pas complètement, il marche quand même un peu.
Diego. Diego.
Oui.
Tu sais pourquoi je vais aller au port?
Non.
Parce que je suis tombée amoureuse. Diego, tu dors?
Non.
Il m'a donné rendez-vous dimanche. Il est beau, il est grand, c'est un pêcheur. Mais on se connaît pas trop en fait. Elle est trop belle, ton île. Tu dors?
I went home with this guy, but that was when we still all lived at our parents' house. And he wanted to play a record for me. And he took me down in the basement, or the rec room, and he put on...
Kalana's carpal tunnel syndrome.
And we sat down on the couch, and we were listening to the record and laughing. And he kissed me for a real long time. And then we listened to the record some more and laughed some more. And then the two of us lay down on the couch together and listened to the record some more and laughed and kissed. And I think it was probably one of the most romantic times of my life.
Thank you.
Vacation Island, les îles des vacances, l'île de vacances. C'est un morceau de Koala Kid qui fait juste suite à un extrait de votre film, Léa Misius, L'île jaune. Mais on n'est pas exactement dans la même ambiance parce que cette île, même si on entendait cette petite fille dire qu'elle est amoureuse, que cette île est merveilleuse, cette île va comme se refermer sur eux deux. Ce dialogue-là, qui est très important entre la petite fille et puis ce jeune garçon qui est un peu plus âgé et qui l'a emmené sur son île. Vous l'avez pensé comment? Comme une sorte de tournant dans l'écriture?
Oui, on l'a pensé vraiment comme une sorte de trahison que Ena aurait faite à Diego. Parce que donc Ena a 11 ans et demi et Diego a 14 ans, mais il a la moitié du visage brûlé. Et il est un peu solitaire comme garçon. Et donc là, on est vraiment sur son île, ils sont dans sa cabane. La nuit, donc, ils ont fugué et ils passent la nuit ensemble sur l'île. Et en fait, il l'a vraiment emmené dans sa grotte, quoi, dans son endroit secret, comme dans un conte. Et une fois qu'elle est dedans, il lui met sa musique. Donc, c'est un opéra que lui écoute et qu'il, je pense, n'a jamais fait écouter à personne. Donc là, c'est la première fois qu'il ouvre un peu son intimité. Et c'est ce moment-là qu'elle choisit très innocemment, entre guillemets, pour lui dire qu'elle est amoureuse d'un autre garçon. Et qu'en fait, s'ils sont venus sur cette île, c'est pour aller voir cet autre garçon.
Et honorer ce rendez-vous qui était donné. Voilà, en tout début de film, on l'entendait avec cette offrande d'anguille. Donc c'est la naissance du drame aussi, c'est la manière dont le drame arrive.
Oui, et sur une toute petite chose qui nous paraît vraiment anodine. Et en fait, on a essayé de faire que... C'est vrai qu'à cet âge-là, ce genre de petite... Enfin, même maintenant d'ailleurs, hein, mais c'est dit comme ça, genre je suis amoureuse, en fait, ça peut être très douloureux pour la personne en face, quoi.
Et c'est aussi un moment où se dévoile justement l'autre face peut-être de Diego, peut-être c'est là aussi où on prend conscience de sa brûlure, peut-être plus que dans le reste du film où elle nous apparaît, la face plus sombre de ce jeune garçon-là.
Oui, ça, parce que depuis le début, c'est un garçon très renfermé qui n'a pas du tout l'air intéressé, voire agacé par Ena. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, s'il l'a emmenée sur cette île et s'il il dort avec elle, parce qu'en fait, là, ils dorment ensemble quand même, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus. En tout cas, il y a du désir.
C'est un désir qui, en effet, puisqu'il n'aboutit pas ou puisqu'il se trouve contrarié, dans une scène très belle, on peut peut-être la raconter, il se jette sur elle, enfin, pour essayer de l'embrasser. Et là encore, très innocemment, mais d'une manière si juste, elle lui dit « Mais ça va pas la tête, si tu veux un câlin, tu demandes. » Et il semble que, par exemple, sa sagesse de toute jeune fille de 11 ans, presque le laisse sans voix.
Oui, exactement. En fait, c'est juste après cette nuit-là, donc il a passé la nuit avec elle, ils vont se baigner, donc, et Ena arrive, et il se trouve qu'elle a 11 ans et demi, mais qu'elle a quand même une sensualité, on voit sa sensualité de femme, et lui ne peut pas s'empêcher de la voir, et effectivement, il est encore maladroit, et c'était la confrontation entre cette innocence, pas vraiment innocente, d'Ena, et la maladresse de Diego.
Et aussi peut-être, on parlait de ces étés d'adolescence ou vacances d'été où justement ces rencontres entre jeunes filles ou presque encore enfants et jeunes hommes ou presque encore enfants se font. Peut-être une course à deux vitesses, non? Du côté des filles et des garçons, il semble que, en tout cas, vous souligniez ça.
Oui, c'est ça, parce que les jeunes filles, oui, sont beaucoup plus mûres que les garçons généralement. En tout cas, plus tôt. Donc, souvent dans mes films, d'ailleurs, les filles sont plus jeunes que de 3 ans, voilà, parce que elles sont plus prêtes, quoi.
Est-ce qu'elles sont plus prêtes au surgissement de la violence? Je ne sais pas s'il faut tellement dire ce qui se passe ensuite sur l'île jaune, mais d'un seul coup, ça prend un tournant plus hitchcockien que film d'été. C'est pareil, vous souhaitiez qu'on se fasse surprendre par ces scènes-là?
Oui, on voulait être surpris, et aussi parce qu'en fait, Ena, elle provoque quand même. C'est pas qu'elle c'est pas une allumeuse ou quoi, c'est pas du tout ça, c'est qu'elle cherche. Donc en fait, elle a un truc comme ça malgré elle où elle va elle va provoquer le désir chez ce garçon, ça lui vient pas comme ça tout seul, quoi. Et donc en fait, elle se rend compte que finalement elle joue un petit jeu qui peut être beaucoup plus dangereux qu'elle ne le pensait. Et si à un moment on peut penser qu'il va déferler sa violence sur elle, en fait, il la retourne contre lui, donc c'est d'autant plus violent pour Ena.
T'es en quelle classe? Oh, ça va, fais pas la gueule! T'as quel âge?
14.
Moi, j'ai 11 ans et demi.
T'es petite.
N'importe quoi! Je suis pas petite, j'ai l'air petite.
t'habites ici. Tu dois bien connaître les temps, non?
Ouais.
Mes parents, ils disent que c'est sale.
Et bah, c'est des cons.
Et sur les temps, il y a des îles?
Bah ouais.
Comment elle s'appelle l'île là-bas en sortant du canal?
L'île de la Tortue.
Et c'est tout?
Non. Après c'est mon île. C'est l'île jaune.
On mettrait combien de temps en bateau pour aller jusqu'au port?
Un jour et demi, pourquoi?
Et on peut y dormir sur ton île?
Moi je dors dessus, mais personne d'autre.
Je te donne ça en échange. D'accord? Si j'arrive de l'autre côté, je te le donne. Et on dort ensemble sur ton île. Aide-moi. Marché conclu?
Un dernier extrait de L'île jaune, Léa Misius, et on entend la voix des deux jeunes comédiens qu'on évoquait à l'instant. Cette jeune comédienne, on la retrouve aussi dans Cadre avec Exquis, un précédent film. De même qu'Héloïse Belloquet, vous dirigez Imane et Matisse, qui sont aussi dans Comme une grande, qui est un film qui a une toute autre forme, qui est très différent, mais qui travaille aussi ces questions-là d'émancipation, d'adolescence. Ça veut dire rejouer avec eux que vous avez eu plaisir à les diriger, Héloïse Belloquet?
Oui, moi ça veut vraiment dire ça, et ça veut dire aussi que en fait on écrit beaucoup en fonction de ce qui nous inspire. C'était le cas pour le premier film Comme une grande, où on partait le film mélangeait des vidéos qui Iman tournait avec son téléphone portable, dont on s'inspirait beaucoup pour écrire le scénario. Et là on s'est beaucoup inspiré en fait de Matisse, que par le tournage de Comme une grande on connaissait donc déjà, et qui lui était justement en train de exactement dans les mêmes préoccupations que son personnage dans le film. Il est celui qui reste sur l'île parmi sa bande d'amis. Alors dans la vraie vie c'est pour devenir plombier, mais c'était ses préoccupations, et c'était ces questionnements là qui sont des choix déterminants et pas faciles, qui nous a d'abord donné envie d'écrire cette histoire et en fait de mettre en fiction ce qu'il était en train de vivre.
Et vous concernant, Léa Misius?
On a vraiment écrit en pensant à Héna, parce qu'on voulait, après Kadarevski, lui écrire un film. Donc en fait, elle s'appelle Héna dans le film comme dans la vie. Et on a façonné le film autour d'elle, quoi. Sa manière de parler, enfin en tout cas du souvenir qu'on en avait, parce que finalement, quand elle est arrivée, elle avait un peu changé. Elle était moins exubérante. Mais on voulait vraiment filmer son visage. C'était le but.
On a commencé par parler tout à l'heure de vos propres impressions d'été, de vos propres vécus. Et j'imagine aussi que dans l'écriture des films, il y a des choses de vos étés ou de vos sensations d'été qui sont passées. Vous avez discuté avec ces tout jeunes gens, ces enfants, de vos étés à vous? Vous les avez partagés ou ce n'était pas le lieu?
On n'a pas spécialement partagé, plutôt avec Paul, justement, parce que
Paul Guillaume.
On a écrit ensemble, ouais, avec Paul Guillaume. Parce que lui, c'était vraiment sur les lieux de son enfance, où il passait l'été et tout ça. Après, je trouve ça en fait difficile de parler de soi aux comédiens, ce qui vaut mieux qu'ils ne projettent pas, enfin qu'ils n'essaient pas d'imiter quelque chose en fait. Et si au final ils nous ressemblent, parce qu'évidemment on leur a transmis quelque chose, c'est un peu malgré eux, c'est pas passé par la tête. Surtout que Héna, je la dirige beaucoup sur le corps et sur les attitudes et tout ça, donc en fait ce serait un peu absurde de lui raconter de qu'elle s'imagine d'autres choses et qu'elle soit moins dans le faire, quoi, et dans l'instant.
Pareil pour Imane.
Absolument, ouais, je suis assez d'accord. Nous, on travaille aussi de la même manière. On n'écrit pas de dialogue, par exemple. On les laisse. Enfin, les scènes sont écrites, elles sont répétées plusieurs fois. Elles se figent jamais. Mais enfin, on les sculpte petit à petit. Mais de la même manière qu'on n'écrit pas de dialogue, j'aurais pas eu envie non plus de trop raconter, de trop investir, de donner trop de matière, parce que comme les personnages viennent vraiment d'eux, même si c'est une mise en fiction d'eux-mêmes, oui, j'essayais de pas forcément beaucoup nourrir d'autres choses que de, pareil, l'instant de la scène et les relations entre eux qui sont pour le coup existantes, ouais.
Imane?
Ouais.
J'ai pas voulu laisser avec l'année prochaine.
Bah non.
Non.
Pourquoi t'as plus envie d'aller au lycée? Ouais, c'est ça.
En même temps, je comprends. Lui, t'as moyen de maths. Tu veux être marin toute ta vie?
Ouais.
On sera des barbecues avec ta pêche.
That come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover, and you want to travel with her. And you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Un poème que cette chanson, Suzanne, de Leonard Cohen. C'est vous qui l'avez choisi, Louise Péloquet, pourquoi ?
Parce que parce que ça m'évoque justement les quelque chose de leur doué, de l'amour, d'une certaine mélancolie aussi. Je t'aime m'a fait par association d'idées, fait penser à ça, parce qu'il y a cette idée de la femme qui emmène aussi, de la sirène.
Elle t'emmène jusqu'à la rivière, elle te fait croire que t'es son amant. Non, elle laisse répondre la rivière que tu es son amant depuis des siècles.
Absolument. Oui. Mm-hmm.
C'est la femme qui emmène, comme dans votre film dont on entendait un dernier extrait, L'âge des sirènes, c'est une fête. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a aussi les fêtes de l'été. Elle avait pour c'est aussi un moment un peu particulier. Il semble très improvisé, cette scène-là.
Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée d'une... On l'a écrite comme une fête d'été. Il y a des dans la scène, il y a des personnes aussi plus âgées. On sent que pareil, c'est pour cette idée que Mathis s'éloigne de ses amis. Et ben là, il est justement ils sont entre deux âges. Il y en a qui ont tendance à vouloir aller plus vers les grands. Mathis a tendance, du coup, par réflexe, à plus se renfermer. C'est une fête qui a lieu sur le continent aussi. Avant, les voix se rendre en scooter sur le continent. Donc c'est l'autre monde auquel. Vers lequel il va laisser ses amis partir, mais vers lequel lui n'ira pas. Et on voit beaucoup de figures féminines dans la fête et de jeunes femmes. Moi, c'était important pour moi qu'on voit. Il y a évidemment le personnage d'Élodie, celle qui attire Mathis, en tout cas qui le, d'une certaine manière, elle fait partie de tout ce qui le pousse à rester sur son île alors que les autres vont partir vers le continent. Et le continent, c'est en tout cas dans l'imaginaire qu'il en reste un genre de fête.
Voilà. Elle en vaut probablement la peine, cette sirène, vu les yeux qu'elle lui donne dans cette dernière scène.
Je crois, oui.
Qu'est-ce que vous allez faire l'une et l'autre cet été du cinéma ? Ou suivre du cinéma à distance, Léa Misius ?
Je vais tourner mon premier long métrage à partir du 1er août, donc un film d'été aussi, un film avec une jeune fille qui a 13 ans cette fois, qui ne sera pas Ena mais une autre, qui s'appelle Ava, et qui va aussi tomber amoureuse pendant les vacances d'été.
Comme quoi c'est une histoire que vous creusez.
Voilà.
On se disait tout à l'heure en sélectionnant les extraits que finalement c'est presque une figure de style que ces films d'été où des jeunes filles, des jeunes hommes s'émancipent. Vous avez eu la sensation comme ça de faire un geste maintes fois répété par d'autres cinéastes, Héloïse Péloquet?
Oui, en tout cas, oui, on l'ignorait pas. Oui, après, oui, c'est vrai. Chacun de nos zones de recherche, absolument. Oui, il y a le film d'été, et puis oui, les questions sur l'adolescence, sur les charnières, les bascules et tout, bien sûr. Ouais.
Et vous, pour vous, l'été sera studieux cinématographique?
Oui, moi, je suis en écriture avec toujours la même personne, Rémi Brachet. On est en écriture d'un premier long métrage aussi.
Au soleil ou pas du tout?
Pour l'instant, plutôt à multiples saisons.
Comme une grande d'ailleurs, c'était plusieurs saisons.
Ouais.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et il est 14h50 sur France Culture, le samedi 4 juin dernier, dans le cadre du week-end Imagine sur la piazza du Centre Pompidou. Nous avions fabriqué une marelle radio géante avec les auditeurs, les visiteurs, les enfants, les ados, les adultes qui passaient et qui venaient enregistrer pour nous le récit de moments marquants. Et au sol se dessinaient petit à petit des cases thématiques décidées par les raconteurs d'histoire, et puis ces cases pouvaient être réutilisées ensuite par les raconteurs suivants. Alors vous entendrez toutes ces histoires reprises dans la grande traversée consacrée à ce week-end Imagine un petit peu plus tard dans le mois de juillet, mais on entend aujourd'hui un jeune homme. Ils avaient décidé de se placer à l'intersection de deux cases, une case paysage et une case apparition. Écoutons-le.
C'est là. Je suis à l'intersection d'un paysage et d'une apparition. Parce que j'ai un souvenir qui date de précisément 8 ans. Il y a 8 ans exactement, j'ai fait un voyage en Arménie. Dans des paysages souvent très montagneux, avoir énormément de monastères, dans des paysages très encaissés. C'était à chaque fois des paysages magnifiques, très, très ruraux, très montagneux, Et puis il y a eu une après-midi en particulier où on s'est retrouvé dans un paysage de falaises, mais avec en plus un temps incroyable, très orageux, avec une lumière, quand même un soleil qui passait au travers des nuages et qui rendait une lumière qu'on n'a jamais réussi à capter par n'importe quel appareil photo. On était plusieurs, il y avait quelques-uns qui étaient photographes, on n'a jamais réussi à capter cette lumière-là. On s'est arrêté plusieurs fois sur le bord du chemin avec de très très grandes falaises à perte de vue, très loin, aussi loin que le regard se portait. On avait une vue incroyable, incroyable. Rien que cette vue-là me marque énormément avec la lumière qu'il y avait ce jour-là. Et puis finalement, on a repris la voiture. C'était plutôt un minibus, donc avec de grandes vitres. Et puis on roulait sur une petite route de falaise comme un col. Et puis d'un coup, sorti de nulle part, on ne sait pas d'où c'est sorti, devant nous, au détour d'un virage, il y avait un cheval sauvage qui s'est mis, qui galopait à perdre haleine devant nous. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a suivi ce cheval sauvage qui s'est jamais arrêté. On a fini par perdre à un moment où il a fini par changer de route. Et c'était incroyable, à la fois ce paysage, cette lumière, ce cheval devant nous, qu'on n'a plus jamais revu ensuite. Et je pense que de tous les paysages que j'ai vus, entre la lumière qu'il y a pu avoir, le paysage en lui-même et cette apparition-là, je pense que oui, c'est le souvenir le plus marquant visuellement. Puis d'un point de vue de l'émotion aussi, que j'ai jamais eu en voyage.
Lua nova naquela
conclusion, Somanina et Gilles Peterson ont les mêmes goûts puisqu'ils vous proposent tous les deux d'écouter ce titre Machinario de Graveola. Son album sortira, il s'appellera Camaleo Borboleta, ça doit être plus beau avec un accent brésilien, ce sera le 29 juillet chez Différent. Ils seront en concert acoustique le 8 juillet prochain au Comptoir Général. Et pour voir vos films à toutes les deux, Léa Misius, L'Île Jaune dans le festival Partie de Campagne à Ouroux en Morvan, ce sera du 13 au 17 juillet, c'est une occasion magnifique pour voir votre film et voir le Morvan. Et aussi au festival Silhouette Paris 19e, ça ce sera plutôt fin août. Et puis une future diffusion sur France 2, rediffusion sur France 2, on ne sait pas quand, mais ça arrivera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Héloïse Péloquet, votre film L'âge des sirènes sera diffusé à la Cinémathèque de Paris à l'automne prochain, sur Arte dans l'émission Court-circuit avant la fin de l'année 2016. Puis peut-être, je ne sais pas, vous serez dans le Morvan vous aussi.
Peut-être.
On ne sait pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci.
Et les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. On peut réécouter l'émission sur franceculture.fr. On peut se parler via franceculture.fr, via Twitter, via Facebook. Pour l'abonnement au podcast, s'il est encore temps de le faire, via la page des nouvelles vagues franceculture.fr. L'émission est imaginée avec Romain Debec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et elle est réalisée par Somanina. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric, c'est au droit d'auteur Ben Kachmarek.